Bienvenue sur le podcast de Voyage Afrique. Je suis Franck-Olivier Kra, votre présentateur invité pour cette émission. Ce podcast de Voyage Afrique, dédié à l'industrie touristique africaine, donne la parole aux acteurs du secteur. Vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts, sur Spotify, TuneIn et Google Podcasts. L'émission du jour fait partie d'une série de discussions autour de la gastronomie africaine. Mon invité du jour est le chef Aramada Bin Ali des Comores. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le chef Aramada Bin Ali des Comores. Bonjour Aramada.
Bonjour Franck. Ouais. Comment ça va?
Ça va bien. Ça va bien. Et donc, bienvenue sur la plateforme de Voyage Afrique, sur le podcast de Voyage Afrique. Et donc, voilà. Et merci de ton temps. Merci de ton temps. Parce que je sais que tu es beaucoup occupé, comme voilà, étant en ce moment à Paris, même si c'est le confinement, mais tu n'arrêtes pas de travailler en ligne.
On essaie de s'occuper, ouais.
Voilà. Voilà. Et donc, je vais passer directement à la première question. D'accord? Et donc, tu as un parcours de référence, c'est-à-dire de chef cuisinier au Café Madeleine en passant par la brasserie Georges V. Parle-nous un peu de toi.
Alors, parler de moi, on va dire que j'ai un cursus très standard. Hein, donc, un cursus CAP, BEP, hôtellerie-restauration. Et donc, j'ai poursuivi avec mon premier poste de chef très jeune. En fait, c'était une brasserie-restaurant. Et voilà, de fil en aiguille, je suis passé un petit peu, j'ai traversé quelques établissements, comme tu l'as cité. Et ce qui a fait un petit peu mon expérience et voir un petit peu le domaine. Donc, sous différentes formes, je dirais, parce que c'est vrai qu'on a plusieurs types d'établissements, donc plusieurs types de gastronomie. Et c'est vrai que ça permet d'enrichir, en tout cas, sur le parcours professionnel.
Merci. Alors, quelle est l'influence qui t'a emmené à devenir chef gastronomique?
Alors, je ne sais pas si on peut dire l'influence.
D'accord.
C'est-à-dire que moi, c'est vrai que j'ai commencé à faire ce métier sans forcément être passionné. Je l'ai fait parce qu'on va dire que je m'en sortais plutôt bien. Et je dirais que l'intérêt du métier, il a commencé à voir le jour au moment où j'ai commencé un petit peu à visiter l'Afrique et de me rendre compte du manquement qu'on avait dans ce secteur-là et qui fait partie d'un secteur économique et qui, à mon sens, en fait, était très négligé. Et de là, je me suis demandé, voilà, par rapport justement au métier que je pratiquais, comment je pouvais apporter une contribution et comment en même temps on pouvait faire prendre conscience aux gens que ça fait partie des secteurs clés d'une économie. C'est de là en fait où j'ai commencé un peu à m'intéresser vraiment sur une dimension beaucoup plus large du métier, donc sortir un petit peu le regard de la cuisine, un petit peu la partie gestion, la partie économique, et essayer de comprendre aussi ce mécanisme autour de la gastronomie, donc pour avoir voilà, une vision beaucoup plus large et de pouvoir l'expliquer. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une méconnaissance, une incompréhension par moment de ce secteur-là, qui faisait que ça provoquait soit de l'inintérêt ou simplement de la négligence, en fait, ou du mépris même. Parce que, malheureusement, on a certaines générations qui ont méprisé les acteurs de ce secteur-là et qui a fait finalement qu'on ne s'est pas penché sur la structuration, sur ce développement, en fait, qui aurait permis d'apporter certaines solutions socio-économiques.
D'accord. Alors, tu as créé un concept que tu appelles la géogastronomie africaine. Alors,
Donne un peu plus d'explications là-dessus.
Alors, c'est pas un concept, c'est plus une vision, une perception en fait.
D'accord.
Qui dit mon métier et on va dire la situation gastronomique, on va dire, du continent africain. C'est-à-dire que moi, je suis parti en fait des Comores, de la constitution des Comores qui est composée de 4 îles, en regardant un petit peu donc avec un regard on va dire gastronomique et de me dire bon ok comment c'est structuré, quel est le constat en fait de ce monde-là, et je me suis rendu compte en fait qu'on se connaissait pas culinairement parlant et on est chacun sur notre île et au final très peu connaissent les autres. Et en regardant le continent, je me suis rendu compte en fait qu'on avait la même problématique, c'est-à-dire qu'on se dit tous africains, mais qu'on se connaît très peu culinairement parlant. Et donc il y avait besoin d'avoir cette portée géoculinaire pour essayer de voir en fait quelles étaient les problématiques similaires des uns et des autres et quelles étaient les particularités des uns et des autres, pour voir finalement comment on devait construire cet univers-là, que ce soit de façon linguistique, que ce soit de façon pratique, pour amener une vraie vision, parce que je partais du principe où c'est pas parce qu'on règle le problème des Comores qu'on a réglé le problème de l'Afrique. Donc, mais en même temps, si on pouvait trouver des solutions pour les Comores, c'est que ces mêmes solutions pouvaient s'adapter à d'autres pays d'Afrique. Voilà un petit peu voilà comment j'ai raisonné la chose.
Ah ouais, donc c'est une vision panafricaine, en fait, sinon panafricaniste, en fait, de la gastronomie, voilà.
Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est comment on fait de la géopolitique culinaire. Parce qu'on sait très bien que même dans l'art de recevoir, on va dire diplomatiquement, on signe des contrats, des accords autour d'une table. On apprécie une communauté dans sa façon de recevoir. Dans sa richesse gastronomique. Donc, voilà, tout ça, c'est des formes de langage qui permet en fait et qui démontre qu'il y a nécessité à construire en fait notre identité culinaire, de la transmettre correctement et aussi d'en faire un modèle économique, d'en faire un référentiel, auprès des autres communautés internationales.
Très bien. Alors, tu as aussi fondé Massiwani Traiteur, ce qui est la structure que tu as mise en place pour tâcher de surprendre par le goût et la présentation sans pour autant la dénaturer. Alors, comment est-ce que tu nous expliques ça?
C'était, on va dire que c'était un pari stratégique en me disant que, toujours dans cette observation, en fait, je me demandais stratégiquement comment je pouvais toucher les autres communautés, à la fois en leur parlant à travers les saveurs qu'ils connaissaient, qu'ils avaient l'habitude de côtoyer, et en même temps en sortant de cette partie traditionnelle. Parce que le problème, c'est que quand on a un regard traditionnel, il est quelque part sectorisé. Et voilà, c'est une habitude alimentaire qu'on a dans son environnement et que du coup, en fait, qui s'approprie à chaque communauté. Donc du coup, je ne pouvais pas avoir cette prétention de faire à la fois de la cuisine sénégalaise, ivoirienne, congolaise ou rwandaise. Donc pour ça, il fallait que je trouve un autre langage, une autre approche pour à la fois pouvoir dire, eh ben voilà, on est tous africains et on se réunit autour de cette table parce qu'on est africains, c'est notre point commun. Mais par contre, la richesse de ces points communs et cette diversité de saveurs qu'on peut apporter. Donc, du coup, je fais à la fois connaissance des matières et des saveurs du continent, et à la fois, je m'en approprie pour proposer une autre forme de ces saveurs-là, d'autres associations. Je vais prendre, je ne sais pas moi, une saveur camerounaise que je vais associer à une saveur sénégalaise ou comorienne, par exemple. Je vais prendre une méthode de cuisson antillaise et que je vais m'en approprier pour réaliser une recette rwandaise, par exemple. Voilà. L'objectif, c'est comment on construit des histoires autour de ces réalisations, comment on construit un langage autour de ces réalisations. Parce que finalement, on est tellement porté par l'assiette, par sa quantité, qu'au final, en fait, on en oublie que, en racontant l'histoire simplement de ce parcours, comment on est amené à créer cette assiette-là, finalement, prend plus de valeur par moment que la partie gustative ou la partie quantitative de la dégustation. Donc, il y avait toute cette éducation à apporter au fur et à mesure des événements qui avait pour but justement de nous rassembler et d'expliquer que voilà, on a tous nos particularités, mais en même temps, on peut tous être semblables à des moments. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas prétendre ne pas aimer la cuisine camerounaise, sous prétexte qu'on est comorien. On ne peut pas prétendre non plus que le Comorien, par exemple, l'entier n'est pas d'Afrique, or que on a la même matière première, on a la même le même processus de fabrication, voilà. Et tu vois. Et du coup, en fait, voilà, c'est tout plein d'éléments qui démontrent. Et la question aujourd'hui, c'est comment on se quelque part, comment on répare les cicatrices, comment on répare l'histoire quelque part. Et aujourd'hui, on ne peut pas. Moi, j'ai souvent, en fait, on nous associe par la couleur, mais en même temps, on est, on se sent complètement isolé pas concerné par une cause, alors qu'en fait, les autres nous associent à cette même cause. Donc là aussi, il faut essayer de comprendre. Mais voilà, à un moment donné, un asiatique, il sera toujours associé à cet univers asiatique, à ce parcours, à cette histoire. Et donc, pour l'Africain, c'est pareil, quel que soit l'endroit où il se trouve sur Terre. Aujourd'hui, on voit bien qu'aux États-Unis, ils ont la même culture culinaire en termes de productivité que celui qui est en Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est des choses qui s'expliquent. On ne peut pas considérer, on peut pas se contenter de dire « Oh, bon, c'est le hasard ou c'est sympa. » Donc, à un moment donné, voilà, il faut comprendre, en fait, tous ces mécanismes pour vraiment se munir des outils qui nous permettront demain de construire des choses concrètes. Donc voilà, la démarche de Massimo Nitretteur, c'était vraiment ça au départ. Et comment on réunit l'Afrique ? Du coup, ça m'a permis, la partie traiteur m'a permis en fait d'être sur un format où je pouvais intervenir sur différents types d'événements. Donc que ce soit un gala, un mariage, un dîner privé, un concept événementiel, grand public, voilà. Ce qui permettait en fait de construire ces cuisines-là et montrer à la communauté africaine que on pouvait interpréter à la fois nos saveurs, nos assiettes, en fonction des thématiques. Et ne pas se sentir obligé de faire de la cuisine européenne à partir au moment où on parle, d'un gala parce qu'on est dans un environnement valorisant ou élégant. Donc le but était de pouvoir dire, voilà, on peut organiser un dîner gala. Aujourd'hui, on a par exemple nos ambassadeurs, nos présidents qui se déplacent. Aujourd'hui, on devrait être capable d'organiser un événement présidentiel avec une cuisine gastronomique, avec ses saveurs africaines. Et qu'on ne soit pas obligé de faire du foie gras ou autre parce que ce qui fait partie des produits de noblesse ou c'est ce qui est valorisant. Tu vois, donc voilà, il y a tout ce travail de construction culinaire, mais aussi d'éducation psychique et psychologique qui doit faire comprendre aux différentes communautés africaines que voilà, cette avancée, elle va pouvoir se faire que parce qu'on va faire un travail sur plusieurs paliers.
D'accord. Merci. D'accord. En tout cas, c'est une explication très très brillante, en fait, qui est très informative, en fait. Et nous reviendrons de toute façon, mais c'est très très intéressant ce que tu viens de dire là. Et donc ce grand besoin de partage et de réflexion autour de la valorisation des richesses culinaires africaines et de l'économie que cela peut générer de nos jours, T'as aussi porté vers une première conférence co-animée avec deux chefs qui sont des femmes, c'est ça, bien entendu, c'est ça?
Oui, c'est ça, ouais. C'est une femme camerounaise et une femme malgache. Donc, une chef camerounaise et une chef malgache. Alors, eux qui sont beaucoup plus jeunes que moi sur le parcours. Mais je trouvais intéressant aussi d'avoir des visions complètement différentes, des interprétations différentes, en fait, du même domaine. C'est-à-dire que, voilà, elle, ça fait 3-4 ans qu'elle pratique. Moi, ça fait quand même 30 ans. Et du coup, on n'a pas le même, on n'a pas le même regard du métier. Donc, je trouvais ça intéressant de voir, voilà, aujourd'hui, au 21e siècle, comment elle interprète ce métier-là, sachant en plus qu'on a des outils qu'il n'y avait pas avant. Aujourd'hui, les réseaux sociaux est un outil médiatique qui permet une autre façon d'exprimer. Et il y avait aussi le fait que aujourd'hui, il faut faire comprendre aux gens que cette qualification, on va dire, de chef comporte des caractéristiques, comporte des paramètres. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas se nommer chef sous prétexte qu'il fait de la cuisine. Aujourd'hui, entre les, on va dire que les chefs qui ont 20-30 ans d'expérience et les chefs qui ont 2-3 ans d'expérience, il faut qu'à un moment donné, on arrive à trouver un langage commun, un regard mutualisé et non pas divisé du métier. Voilà, et du coup, et aussi c'était d'avoir d'autres communautés en fait dans la conférence, c'était aussi de voir en fait comment ça se passait chez chacun, comment chacun représentait sa cuisine, donc pour aussi essayer de comprendre les problématiques des autres et où à un moment donné on pouvait nous-mêmes être porteurs quelque part de solutions. Ou en tout cas, d'apporter un élément en plus qui leur manquerait. Donc voilà.
D'accord.
L'échange est important parce que c'est vrai que très souvent, en tant que cuisinier, on s'exprime à travers la réalisation, à travers une assiette, mais on voit bien que dans les autres... en tout cas, dans la gastronomie française, on voit bien qu'on utilise les livres, on utilise les médias, on a plusieurs formes d'expression qui permet justement d'apporter une lecture différente du métier, une approche, une perception différente qui va faire que, moi, comme je dis toujours, je fais de la formation aussi et quand je suis en formation, je sépare vraiment la partie théorique et la partie pratique parce que notre concentration et notre façon de capter l'information quand on est assis, qu'on a sa feuille et qu'on peut prendre des notes et qu'on est concentré sur l'oral, c'est pas la même chose que quand on nous donne cette même explication pendant une réalisation de plat. Donc voilà, je trouvais intéressant de changer un peu ce format de réflexion et d'approche.
D'accord. Et quelle est ta spécialité vedette, ou bien tu en as plusieurs, ou bien...
On va dire que j'en ai pas, plutôt.
Ah ouais?
J'en ai pas, mais parce que... je dirais que... comme ma dynamique depuis quand même pas mal d'années aujourd'hui, ma dynamique se porte vers la structuration, vers la construction en fait de la construction culinaire et vers la structuration du on va dire de l'univers gastronomique. Et du coup, déjà de nature, j'aime pas me figer sur quelque chose. Voilà, je suis pas le genre de personne qui a besoin d'avoir le même produit tout le temps, ou la même action tout le temps pour se sentir bien ou rassuré. Moi, j'aime bien naviguer. J'aime bien naviguer, j'aime bien me challenger. Et du coup, je me suis pas fixé sur un plat, une recette, préférentielle. J'aime tâtonner un peu tout et voir un peu. Je me laisse libre, vraiment libre en termes de matière, d'association, de procédure. Je pars du principe où tant que j'ai la bonne mécanique pour réaliser ce que j'imagine, c'est le plus important.
D'accord. Alors, très bien, merci. Et on sait que en ce moment, nous vivons dans une période de pandémie. C'est une question qui revient toujours, mais il faut quand même la poser.
Bien sûr, ouais.
Alors, comment est-ce que cela a impacté? Quel est l'impact que ça a eu dans ton secteur? Quel est ton point de vue là-dessus? Qu'est-ce que tu en dis?
Alors, je t'avoue que moi, j'ai très vite décroché, en fait. Dès le début de la pandémie, étant conscient que la partie événementielle allait s'arrêter, du coup, je me suis pas plus pris la tête que ça. J'ai eu quelques demandes de ventes à emporter ou de livraison, des trucs comme ça, mais je voulais pas changer mon format, en fait. Moi, pour moi, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait pendant que j'étais en activité, et je l'ai pas fait non plus lors de la période de Covid. C'est-à-dire que tout ce qui est format livraison où la personne, je réalise un plat, la personne vient le chercher, c'est un format qui ne m'intéressait pas dès le départ. Parce que pour moi, le plus important, c'était de pouvoir lier à la fois la réalisation culinaire, mais aussi l'accompagnement de cette réalisation, donc le service. Et pour moi, il était important, en fait, de montrer que une structure africaine était capable d'avoir un art de recevoir. Donc, du coup, toutes les prestations qui s'arrêtaient vraiment au plat, de manière générale, je le refuse. Donc là, pour le Covid, en fait, j'ai mis un stand-by. Et comme j'ai une partie consultant aussi, parce que j'accompagne des restaurateurs, à leur développement, je fais de la transmission de compétences, donc la formation au niveau des collaborateurs. Du coup, je me suis consacré là-dessus. Ce qui me permet que le temps que j'avais pas pendant la partie événementielle, aujourd'hui, j'en profite et justement, j'essaie de faire avancer ce volet qui est aussi important. Parce que, comme je te disais, tant qu'on ne structurera pas ce secteur-là, on pourra pas l'exploiter correctement, on ne pourra pas amener plus de population à s'intéresser à ce secteur-là, et ni en tant qu'acteur, ni en tant que consommateur. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important de comprendre ça. Aujourd'hui, on se demande toujours, quand on ouvre un restaurant, pourquoi on a une majorité de clients européens et pas africains, alors que le produit de base est africain. À un moment donné, il faut comprendre pourquoi. Peut-être qu'il n'y a pas cette éducation qui a été faite pour pouvoir bénéficier de cette clientèle-là. Donc, je vois, par exemple, là, juste pour approfondir cette partie-là, c'est que moi, en observant le marché, je vois bien que, par exemple, sur Paris et dans d'autres villes, on a toujours, en fait, en termes d'appellation d'enseigne, on a toujours restaurant africain. OK? Prétendant qu'on fait de la cuisine africaine. Mais en réalité, quand on voit que une grosse majorité de restaurants ont cette même enseigne, on se pose la question de, mais finalement, qui représente l'Afrique? On peut pas être en train de dire que l'Afrique est 54 pays. On peut pas dire que l'Afrique est riche et qu'en même temps, en termes d'expression, en termes de produits, d'offres, on a une réduction de cette Afrique qui est concentrée sur, une dizaine de plats, qui est concentrée sur 4-5 pays. Et en fait, on a une expression qui est complètement faussée. Donc, soit c'est nous qui nous exprimons mal, soit c'est nous qui positionnons qui positionnions mal déjà notre représentation, qu'on s'est laissé porter, que finalement, en fait, chacun... Moi, j'ai vu restaurant africain, j'ai envie d'ouvrir un restaurant africain, du coup, je vais marquer restaurant africain. Mais est-ce que c'est une spécialité ivoirienne? Est-ce que c'est une spécialité camerounaise? Est-ce que c'est une spécialité rwandaise ou ougandaise? Je ne sais pas. Moi, en tant que consommateur, je ne sais pas. Donc, en réalité, quand je vais consommer chez l'Africain et que je n'ai pas aimé le ndolé ou que je n'ai pas aimé le tchep, ben, finalement, je n'irai pas dans ce deuxième restaurant africain. Parce que pour moi, j'aurai la même chose en tant que consommateur. Et en tant qu'entrepreneur, je me sens obligé, vu que j'ai marqué restaurant africain, je me sens obligé de faire la même chose que le restaurant africain qui est à côté. Donc, on se retrouve avec cette réduction d'offres. Tu vois, au lieu de dire que, eh bien, on veut représenter l'Afrique, mais que l'Afrique a ses particularités qui se caractérisent par tel pays, telle région, telle matière, telle cuisine, tu vois, eh bien, finalement, en fait, on a tout englobé et on a dit que c'est l'Afrique. Et moi, une fois, avec un chef sénégalais, je lui disais, mais dans ces cas-là, je veux dire que moi, qui viens des Comores, qui me sens africain, si demain, je te propose de mettre un riz au coco sur la carte, tu vas considérer que ce n'est pas africain. Parce que dans les restaurants africains, on ne retrouve pas de riz au coco. Comment on fait? Et à côté de ça, on voit bien que quand on stipule l'origine de ta gastronomie, on voit bien que le consommateur comprend tout à fait le message. C'est-à-dire que quand tu prends par exemple un Éthiopien, il stipulera toujours que c'est un restaurant éthiopien. Il ne marquera jamais restaurant africain sur son enseigne. Tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr.
Et il réalisera sa cuisine à lui, pas la cuisine du Rwanda ou de l'Ouganda. Non. Donc, c'est là aussi, il faut qu'on comprenne que dans cette phase d'entrepreneuriat, dans cette phase économique, il faut qu'on soit beaucoup plus stratège, tu vois, et beaucoup plus intelligent et beaucoup plus, cohérent aussi. Cohérent avec ce qui nous caractérise, ce qui nous représente. Tu vois, donc, voilà, ça, c'est des observations que je fais tous les jours sur le marché. Et aujourd'hui, c'est important d'essayer, en tout cas, de porter le discours, de porter l'échange pour qu'à un moment donné, on arrive à se mettre d'accord. Aujourd'hui, pourquoi il y a des incompréhensions, on va dire ça comme ça, pourquoi il y a des incompréhensions sur les nouvelles interprétations des cuisines africaines? J'entends par là, par exemple, la cuisine afro-contemporaine, la cuisine afro-fusion. Tu vois? Aujourd'hui, oui, il y a des chefs qui ont du mal à se faire comprendre. Mais pourquoi? Parce que on n'a pas éduqué ni le praticien, ni le consommateur, tu vois, à comprendre que la cuisine, la gastronomie et l'univers des métiers de bouche, et que dans cet univers gastronomique, il y a plusieurs types de cuisine. Donc, on a la street food, on a le fast food, on a la cuisine bistronomie, on a de la cuisine gastronomique. Bon, mais il y a des typologies de cuisine. Donc, du coup, si aujourd'hui, on n'est pas capable d'expliquer à nos communautés que moi, je vais pratiquer une cuisine afro-fusion, une cuisine gastronomique africaine, qui a destination, par exemple, des restaurants hôteliers ou d'un restaurant gastronomique, ben moi, en fait, en tant que consommateur, je vais arriver, je vais voir que c'est un Africain qui, soi-disant, réalise de la cuisine africaine, mais en réalité, il réalise une cuisine gastronomique africaine et que je ne serai pas prêt à réceptionner cette cuisine-là. Parce que pour moi, la cuisine africaine, eh ben, elle me dit que c'est 500 grammes de riz et que c'est un seul plat et c'est pas entrée, plat, dessert. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, voilà, c'est tant qu'on ne prépare pas finalement les esprits par rapport à la constitution du marché tel qu'on veut nous l'exploiter ou le poser, ben, du coup, il y aura ces incompréhensions.
D'accord. Merci pour ton explication. En tout cas, c'est vu d'un angle assez intéressant. Pour ça varie la conversation et ça permet de voir que la vision de la gastronomie africaine d'un personnage à un autre. Et ça ne fait qu'enrichir, en fait. Ça veut dire que c'est prometteur, en fait. Ça ne fait qu'enrichir le débat.
Ouais. Oui, je pense. Voilà.
Et donc, la dernière question, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais enfin, on va gagner du temps. La dernière question, c'est en fait de t'exprimer à nos auditeurs, sans toi libre, en 2 ou 3 minutes. Qu'est-ce que tu dirais? Voilà, qu'est-ce que tu dirais?
Qu'est-ce que je dirais? Je dirais que... Non, je dirais déjà qu'il faut y croire. Il faut y croire parce qu'aujourd'hui, on a au moins deux importantes générations qui ont les compétences, qui ont aujourd'hui des ressources, qui aujourd'hui la logistique est accessible, il est nécessaire de se structurer et pour pouvoir avancer dans le bon sens. Parce qu'aujourd'hui, on peut constater effectivement que par l'histoire, les choses n'ont pas été faites de par une sphère gouvernementale ou une sphère populaire, mais que voilà, il faut qu'on arrive à comprendre ce qui n'a pas été et de voir aujourd'hui quelles sont les caractéristiques dont on est muni aujourd'hui et voilà, essayer de porter un message positif. Et moi, je crois en cette Afrique qui avance ensemble. Moi, je suis tous les jours, peut-être de par mon activité, tous les jours, je peux démontrer que c'est vrai, parce que ça fait 8 ans qu'on exerce et que ça fait 8 ans qu'on travaille qu'avec des Africains. Donc, preuve que c'est possible. Donc, je pense que plus on véhiculera un discours positif de nous-mêmes, et plus les gens croiront à cette image positive.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ahmad Abin Ali, pour ton exposé très enrichissant et très instructif. Et donc, c'est un plaisir de t'avoir écouté. Hein. C'est un plaisir de t'avoir écouté.
Merci pour cette invitation. Hein, et puis, j'espère qu'il y en aura d'autres.
Oui, il y en aura d'autres. On ne fait que commencer. On aura d'autres conversations, sûrement. Ouais, sûrement. Parce que tu fais partie de la référence. De la gastronomie africaine, la gastronomie comorienne. Tu représentes aussi l'Afrique, tu représentes aussi les îles des Comores, l'archipel des Comores. Et donc,
on essaie de porter une expertise, c'est vrai, au niveau de la gastronomie comorienne, ouais. qui est peu connue.
Bien sûr.
Mais, ouais.
Et donc,
il y a aussi de la richesse.
Bien sûr, il y a aussi de la richesse, ça c'est sûr. L'Afrique, c'est les Afriques. C'est pas seulement l'Afrique, c'est les Afriques.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Et donc, voilà. Et donc, chers auditeurs, c'était aujourd'hui notre entretien avec le chef Ahmada Bin Ali des Comores, un consultant culinaire expert en gastronomie, je dirais panafricaine, voilà, et donc comorienne. Et donc, nous restons en contact pour la suite. Voilà, c'était le podcast de Voyage Afrique. Voilà. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Et merci, à très bientôt, Ahmada.
Merci, Franck. À très bientôt. Merci à Voyage Afrique. Et puis, en espérant, peut-être prochainement.
Très bien, très bien. Voilà.